Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un boxeur au tribunal, Christophe de Tinger, emblème des Gilets jaunes, un peu malgré lui, risque jusqu'à 7 ans de prison pour avoir donné des coups à deux gendarmes le mois dernier. On y revient en début de journal. Un tunnel qui risque de se transformer en gouffre pour les finances publiques. Le Lyon-Turin ne tient plus qu'à un fil, très critiqué par une dernière étude italienne. Reportage à suivre côté français. Dans l'actualité également, plus de 80 députés de la majorité qui font pression pour ressusciter la taxe carbone, des céréaliers qui veulent protéger l'environnement et la superbe performance du PSG qui bat Manchester United 2 à 0.
Dans 20 minutes, 7h50, et le réalisateur scénariste François Ozon pour son film Grâce à Dieu, au micro de Léa Salamé.
France Inter.
Ses coups de poing sont devenus célèbres, Sébastien, dans tout le pays.
L'ancien de champion de boxe, Christophe de Tinger, doit en répondre devant la justice cet après-midi. Cette figure des Gilets jaunes comparaît à partir d'aujourd'hui donc pour l'agression contre deux gendarmes pendant l'acte 8 des Gilets jaunes à Paris. C'était le 5 janvier dernier sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. Le gitan de Massy, comme il est également surnommé, a regretté son geste, mais il risque plusieurs années de prison. Sarah Guibaudeau.
Avant de se rendre, Christophe de Tinger s'était justifié dans une vidéo mise en ligne.
Je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite, je suis un Français. Je me suis fait gazer et à un moment la colère est montée en moi et oui, j'ai mal réagi.
Le tribunal va surtout revoir les vidéos de la passerelle et les interprétations diffèrent. Thibaut de Montbrial, avocat des deux gendarmes blessés, y voit un agresseur déterminé.
Ce qu'a fait M. de Tinger avec une violence déterminée, une véritable montée à l'assaut, puis en donnant des coups de pied dans la tête au sol à un gendarme, en plus en l'assumant, certes en présentant des formes d'excuses, mais au nom du mouvement social, c'est une véritable incitation à augmenter encore la violence.
Pour sa défense, il faut comprendre comment se fonctionnait municipal apprécié, père de trois enfants sans casier, s'est retrouvé à porter ses coups sans penser à l'impact des images. Maître Hugues Vigier.
Ça aboutit à ce qu'il devienne, mais à son corps défendant, l'emblème des Gilets jaunes peut-être, et puis d'une forme de résistance à ce que certains vivent comme une utilisation de la violence déplacée, excessive. Tout en reconnaissant, il le dit et il le dira encore, que ce qu'il a fait, pour une grande partie, n'est pas acceptable.
Le contexte est moins tendu qu'en janvier, mais Christophe de Tinger risque en théorie jusqu'à 7 ans de prison.
Sarah Guibaudeau, toujours dans l'actualité, Gilets jaunes, les élus et commerçants des grandes villes reçus aujourd'hui par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les maires de Bordeaux, Toulouse, Nantes ou Paris demandent une aide de l'État pour compenser les pertes économiques suite aux 13 samedis de manifestations. La France insoumise, elle, compte d'ailleurs s'associer le samedi 16 mars prochain aux Gilets jaunes pour un rassemblement à Paris contre, je cite, la dérive autoritaire du pouvoir. Ajoutons enfin que le grand débat va s'inviter en prison. Selon l'administration pénitentiaire, les détenus pourront y participer.
7h33, on en parle depuis près de 30 ans. Sébastien, le Lyon-Turin risque-t-il l'abandon pur et simple?
La dernière étude italienne sortie hier n'est pas de nature, en tout cas, à rassurer ses promoteurs, des experts italiens qui torpillent littéralement ce projet de tunnel ferroviaire dont les travaux ont commencé il y a plus de 2 ans déjà. Un projet non rentable, selon l'étude, et même pire, ce serait un gigantesque gaspillage. L'écart entre les coûts et les bénéfices serait d'environ 7 milliards d'euros. Voilà de quoi relancer la guerre entre les pros et les anti. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini veut son tunnel, mais pas le mouvement 5 étoiles. Alors qu'en est-il en France? Reportage à Saint-Martin-la-Porte sur un site du chantier du tunnel. Le reportage de Julie Pietri.
Casque, gilet et bottes. C'est parti.
C'est parti pour 20 minutes de descente en voiture. Ici, le tunnel n'est plus un projet, c'est déjà un chantier à 1500 mètres sous terre.
Moi, ce que je vois, c'est que les équipes travaillent.
Dans une salle moite à l'abri des turbines et de la poussière, Jonathan, gilet jaune et casque sur la tête, ne manque pas de confiance en l'avenir. En même temps, il vaut mieux, il est communicant.
Moi, tous les matins, je me lève, je vais travailler. Je n'ai pas d'inquiétude plus que tant.
450 personnes travaillent sur ce site quotidiennement. Sur la commune voisine de Saint-Julien-Mont-Denis, le maire, Marc Tournabien, attend lui aussi sa portion de chantier dans les prochaines semaines.
Des phases où les Italiens étaient plus moteurs et nous plus réticents. Et des phases inverses ont déjà eu lieu plusieurs fois. Cet épisode va se terminer comme les autres, c'est-à-dire avec un consensus pour poursuivre ce chantier.
Pour une fois, pro et anti-tunnel sont plutôt d'accord. Il ne faut peut-être pas trop donner d'importance aux débats politiques actuels. Attendons. badge non au Lyon-Turin accroché à sa chemise, Daniel Ibanez défend les mêmes arguments depuis des années. Chantier polluant, inutile et coûteux. Le rapport italien ne fait que confirmer, dit-il, ce que nous savons déjà.
Personne n'est surpris. Et c'est simplement un lobby politicien et sans doute économique qui pousse ce projet.
Quant à l'Europe, qui a déjà investi près de 500 millions d'euros sur le projet, elle met en garde. En cas de suspension du Lyon-Turin, il faudra rembourser.
Et puis sur la crise diplomatique entre Paris et Rome, les deux présidents ont tenté hier de calmer les choses au téléphone. Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella ont réaffirmé, je cite, l'importance de la relation franco-italienne. Ajoutons également en matière de transport cette nouvelle infraction au code de la route qui va ravir les automobilistes de la capitale. La préfecture de police de Paris va désormais verbaliser les conducteurs qui se trouvent au milieu des carrefours et bloquent de fait la circulation. Ça vous fera 90 euros. La France à la traîne sur le développement des énergies renouvelables, hydrauliques, éoliennes ou solaires. Alors que 11 pays européens ont déjà atteint leurs objectifs prévus pour 2020, les deux pays les plus en retard, selon Eurostat, sont la France et les Pays-Bas. Eux veulent au contraire rattraper leur retard en matière de respect de l'environnement. Les céréaliers, une agriculture à la réputation très polluante, veulent désormais la jouer défenseur de la planète. Congrès aujourd'hui de leur association, l'AGPB, avec au menu un changement de cap, la mise en place de sortes de vignettes vertes pour valoriser les exploitations vertueuses. Manuel Ruffez.
Ils vont changer, ils l'assurent. Les grands céréaliers amorcent le virage de l'agroécologie. C'est fini, dit le président de leur association, AGPB. Nous ne devons plus subir, mais être actifs sur ces questions environnementales. Philippe Pinta.
On prend plus en considération les attentes sociétales. On était très sur la défensive parce que on est quand même attaqué X fois par an. On dit voilà, on va reprendre les choses en main. C'est nous qui allons proposer un nouveau cahier des charges dans un cadre de certification des exploitations qu'on écrira en commun avec le ministère de l'Agriculture.
Ils visent donc des certifications HVE, haute valeur environnementale, mais aussi RSE sur les exploitations, responsabilité sociétale des entreprises, pour créer cette valeur ajoutée qui leur permettra de mieux valoriser leur production. Éric Thirouin, le secrétaire général de l'AGPB.
Est-ce que le consommateur est prêt à nous accompagner en disant, bah, effectivement, cette qualité française des céréaliers, est-ce que moi je suis prêt à mettre quelques centimes pour reconnaître ça? Et sur le marché extérieur, on s'aperçoit qu'il y a une attente de plus en plus forte qui démarre fortement sur, effectivement, cette différenciation de la manière de produire.
Et ils veulent emmener dans ce mouvement tous les céréaliers de France, et pas seulement, précise-t-il, une petite élite, ce qui n'aurait aucun sens.
Manuel Ruffez, renforcer l'aide au développement, notamment en Afrique, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le Parisien nous apprend ce matin qu'un projet de loi est en préparation pour le mois d'avril, avec au cœur du texte une hausse d'environ 30% des moyens affectés au développement, c'est-à-dire 0,55% du PIB, encore loin toutefois des 0,7% auxquels la France s'est engagée.
7h38, comment sauver le droit d'asile?
C'est un spécialiste de la question qui la pose dans un livre à paraître aujourd'hui, Pascal Brice. Il est ancien directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son deuxième mandat vient d'arriver à son terme. Alors après 6 années d'expérience, Pascal Brice partage ses inquiétudes sur l'avenir du droit d'asile et l'accueil des réfugiés en Europe. Béatrice Duguay l'a rencontré.
Il s'exprime avec la prudence des diplomates, mais Pascal Brice est catégorique sur un point. Décourager les migrants de venir ne fonctionne pas.
À partir du moment où on pourrirait la vie des gens, ne pas les héberger, les laisser à la rue, à Paris, à Nantes, mettre des délais impossibles pour l'accès à la procédure. Dans ces cas-là, on dissuaderait les gens, ce qui est non seulement indigne, mais faux.
Au titre de la préservation du droit d'asile, Pascal Brice défend donc une immigration économique limitée. Marqué par le parcours des migrants, il défend aussi un droit humanitaire complémentaire pour ceux d'Afrique de l'Ouest torturés en Libye, par exemple. Une chose est sûre, le système de Dublin actuel provoque l'incompréhension, dit-il.
Le nombre d'élus, de bénévoles, de travailleurs sociaux qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que quelqu'un arrive, demande l'asile et doit attendre pendant des mois pour rien dans des centres d'hébergement, dans nos villes, dans nos quartiers, c'est véritablement un élément de désordre.
Car la demande d'asile est transmise au pays dans lequel le migrant est arrivé et elle met souvent plus d'un an à revenir. Les solutions européennes existent aux yeux de Pascal Brice. au plus près des arrivées.
Pour l'Aquarius et d'autres navires à Malte, en Italie, en Espagne, ça n'est que depuis l'été dernier que réellement les personnes ont pu être entendues par l'OFPRA et d'autres Européens pour que l'on puisse instruire leur demande d'asile sur place, accueillir en Europe celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et reconduire ceux qui n'en relèvent pas. Il faut maintenant que ce système se pérennise.
Et c'est tout l'enjeu de la négociation européenne à venir pour l'ancien patron de l'OFPRA.
Sur le fil de l'asile de Pascal Brice aux éditions Fayard, son interview à retrouver en longueur sur franceinter.fr. En bref, à l'étranger, un nouveau scandale d'abus sexuels aux États-Unis après l'Église catholique. C'est l'Église protestante qui est visée. Deux quotidiens texans viennent de révéler que près de 400 pasteurs, bénévoles et éducateurs de la Southern Convention Church étaient impliqués depuis des dizaines d'années dans des abus sexuels. On reste aux États-Unis pour terminer avec la sortie au cinéma d'un portrait au vitriol de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, Vice d'Adam McKay avec Christian Bale, sérieux candidat d'ailleurs pour l'Oscar du meilleur acteur, tant la transformation physique opérée pour incarner son personnage est impressionnante, 20 kilos de plus donc pour incarner Dick Cheney, vice-président sous George Bush, George W. Bush, l'homme politique certes est connu mais peut-être pas l'étendue de son influence très néfaste, c'est en tout cas la thèse du film Eva Bétan.
C'est dit avec humour, mais la charge est sévère. Beaucoup de choses laides dans l'Amérique d'aujourd'hui viennent de Dick Cheney. 40 ans dans les coulisses du pouvoir, apothéose de sa capacité de nuisance quand il devient vice-président de George W. Bush, avec des pouvoirs immenses arrachés à ce président qu'il méprise et qui l'influence. Le réalisateur Adam McKay.
Le pire, c'est bien sûr l'invasion de l'Irak, les conséquences dans le monde, en Amérique, les morts. Je pense aussi que aux États-Unis, cela a radicalement endommagé la confiance que nous avons dans nos gouvernants. Et cela dure encore. Les gens ne savent pas pour qui voter. Ils ne veulent pas voter pour des gens de Washington. Et donc, à la place, ils ont choisi cet ex-vedette de télé-réalité, ce propriétaire de casino.
Donald Trump, on l'aura compris. Dick Cheney, est-il encore montré, a contribué à pervertir la démocratie américaine, peut-être surtout par son mépris de la vérité.
Il s'est rendu compte qu'on pouvait manipuler la vérité au profit du pouvoir. Et c'est effrayant. Fox News soutenait Dick Cheney en affirmant « Oui, il y a des armes de destruction massive en Irak ». C'était la première fois qu'on voyait ces fake news monter de manière vraiment dangereuse.
Vice, c'est le titre du film pour Vice President et aussi on pourrait ajouter comme le contraire de la vertu.
Voilà, Vice, ça sort aujourd'hui, c'est un film inter.